Merci d'avoir choisi Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Sophie Tussaud.
Les compromis ont déjà été posés. Et d'ailleurs, j'y vois dans la moins forte mobilisation du nombre de grévistes le fruit des avancées concrètes que nous avions posées.
Pas de négociation sur la réforme des retraites avant mardi prochain. Pour le gouvernement, la mobilisation faiblit. Les syndicats, eux, appellent à maintenir la pression et à durcir la contestation. Carlos Ghosn blanchit sa famille. L'ancien patron de Renault-Nissan assure que ses proches ne l'ont pas aidé dans sa fuite, qu'il a organisé seul son départ du Japon pour le Liban. Dans le même temps, Interpol émet un mandat d'arrêt. Une avancée technique majeure à l'hôpital Necker à Paris, la chirurgie robotique, elle ne comporte que des avantages pour les patients.
On diminue à peu près par deux la durée d'hospitalisation. Et puis surtout, c'est des enfants qui peuvent reprendre leurs activités sportives également plus rapidement.
Immersion au cœur d'un bloc opératoire dans ce journal. Également dans l'actualité, des milliers d'habitants et de touristes forcés d'évacuer les côtes du sud-est de l'Australie en raison des feux. Le tennis, la guéguerre entre le circuit professionnel ATP et la Fédération internationale de tennis, alors que l'ATP World Cup va être lancé cette nuit. Et puis comme tous les soirs, la bourse avec Didier Hameau de boursier.com. Pas d'invité éco pendant les vacances, mais une page culturelle. Thierry Dagiral vous conseille sur les livres et les musiques à ne pas rater en 2020, sans oublier les unes de la presse de demain.
Europe 1.
Bonsoir à tous. Cela fait maintenant 4 jours que Carlos Ghosn s'est réfugié au Liban, qu'il a fui le Japon dans des conditions qui restent encore mystérieuses. Pas d'accord d'extradition entre les deux pays, mais Interpol a demandé aujourd'hui son arrestation aux autorités libanaises. La justice japonaise a perquisitionné son domicile de Tokyo et plusieurs personnes ont été arrêtées en Turquie. Tout à l'heure, en fin de journée, alors que les proches de Carlos Ghosn sont pointés du doigt, l'ancien PDG a publié un communiqué pour mettre sa famille hors de cause, Mathieu Bock.
Oui, c'est son agence de communication française qui a publié ce communiqué. Les allégations dans les médias selon lesquelles mon épouse Carole et d'autres membres de ma famille auraient joué un rôle dans mon départ du Japon sont fausses et mensongères. C'est moi seul qui ai organisé mon départ. Ma famille n'a joué aucun rôle. Une mise au point qui vise à innocenter son épouse soupçonnée de l'avoir aidé dans sa fuite. Sa famille, Carlos Ghosn, l'a donc retrouvé pour passer le réveillon du Nouvel An. Il y a quelques heures, on a vu apparaître une photo où l'homme de 65 ans est attablé en costume élégant, rasé de près, entouré de sa femme et de ses filles dans une belle maison bourgeoise avec des bouteilles de vin posées devant lui. Une photo qui apparaît comme une provocation et qui risque d'énerver encore un peu plus les autorités japonaises.
À Mathieu, les enquêteurs en tout cas s'activent pour savoir comment il a pu quitter le territoire japonais.
Oui, à Tokyo, sa maison a été perquisitionnée. Les enquêteurs espèrent trouver des indices pour savoir comment l'ancien patron a pu quitter ainsi le territoire au nez et à la barbe des autorités. Au même moment, en Turquie, la police a arrêté 7 personnes, 4 pilotes, 2 agents au sol et un cadre d'une compagnie aérienne de cargo. Ils sont soupçonnés d'avoir aidé Carlos Ghosn à rejoindre le Liban. La presse turque affirme également que l'ancien patron aurait utilisé 2 jets privés pour s'évader. Un premier en provenance d'Osaka au Japon qui serait entré dans un hangar sur l'aéroport d'Istanbul. Et un second qui aurait quitté ce même hangar quelques minutes plus tard en direction de Beyrouth.
Merci Mathieu Bock pour Europe 1. Salomé Legrand, je me tourne vers vous. À présent, vous faites partie du service police-justice d'Europe 1. Interpol a envoyé une demande d'arrestation aux autorités libanaises, une notice rouge, mais qu'est-ce que ça change ?
Eh bien, pas grand-chose. Une notice rouge n'est pas un mandat d'arrêt, c'est une demande d'interpellation émise par l'un des pays membres d'Interpol à destination des autres, mais elle n'a rien d'obligatoire. Et si la personne est arrêtée, ce sont ensuite les accords d'extradition bilatéraux qui jouent. Or, le ministère libanais des Affaires étrangères a rappelé qu'il n'existait pas d'accord de coopération avec le Japon. En revanche, ça accentue un peu la pression sur Carlos Ghosn qui, s'il quitte le Liban, peut être arrêté par n'importe quel autre des 194 pays membres d'Interpol.
Est-ce que c'est le cas également s'il revenait en France ?
Alors là, c'est un peu différent sur le papier, oui, mais la France n'extrade jamais ses ressortissants nationaux. La secrétaire d'État à l'économie l'a d'ailleurs rappelé ce matin. C'est une règle de droit international inscrite depuis 1927 dans la loi française. La seule exception, c'est le mandat d'arrêt européen qui ne marche qu'entre pays membres de l'Union européenne. Donc, en revanche, s'il revenait, Carlos Ghosn pourrait être jugé en France pour les faits qu'on lui reproche au Japon. Il y a par ailleurs d'autres enquêtes françaises ouvertes le concernant.
Merci Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Également à la une de l'actualité, les négociations sur la réforme des retraites pour le moment au point mort. Elles ne reprendront que mardi prochain. En attendant, les syndicats maintiennent la pression. Une centaine de personnes a manifesté aujourd'hui devant le siège de La République En Marche à Paris. La police a dû disperser les manifestants avec des gaz lacrymogènes. Le parti majoritaire dénonce une tentative d'intrusion dans ses locaux. Demain sera le 30e jour de grève, avec toujours des perturbations dans les transports. Il devrait y avoir 2 TGV sur 3 et 1 TER sur 2 en moyenne. Dans le métro à Paris, 15 lignes sur 16 seront ouvertes. Certaines ne fonctionneront que très partiellement. Le RER sera également fortement perturbé. Aurélien Fleureau, ça devrait aussi se compliquer la semaine prochaine.
Oui, il faut anticiper un trafic qui sera à nouveau très perturbé la semaine prochaine. Les grévistes voudront peser sur les négociations prévues avec le gouvernement. Beaucoup d'entre eux ont certes fait une pause pendant les fêtes, soit parce qu'ils avaient des congés prévus, soit parce qu'ils ont choisi de reprendre le travail quelques jours, histoire de ne pas se retrouver avec un salaire proche de zéro à la fin du mois. Mais ils ont prévu de reprendre le mouvement. À la RATP, d'ailleurs, le taux de grévistes a assez peu faibli. Les conducteurs de métro et de RER sont toujours aussi mobilisés. Beaucoup se disent « on a déjà perdu 15 ou 20 jours de salaire, donc on ne va pas s'arrêter en n'ayant rien obtenu ».
Aurélien, ça fait quasiment un mois de grève maintenant. Comment les grévistes font-ils pour tenir ?
Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des cagnottes, des caisses de grève, mais dans les différents syndicats, on me répond que c'est à la fois indispensable pour permettre aux plus précaires de se mettre en grève, aux couples de cheminots ou aux familles monoparentales, mais ce n'est jamais suffisant pour couvrir toutes les pertes de salaire. Certains se disent que ça va peut-être leur rembourser une journée de grève, mais pas plus. Il y a ceux qui ont choisi de faire la grève en pointillé, pas forcément tous les jours, pour là aussi se refaire une trésorerie. À la RATP, le recours aux arrêts maladie est assumé par certains grévistes comme une manière de faire durer le mouvement. Alors évidemment, il y a un peu de lassitude et de fatigue qui se fait ressentir, mais se retrouver chaque jour en Assemblée Générale leur permet de rester motivés et donc de durer.
Merci Aurélien Fleureau. Aujourd'hui, le taux de grévistes à la SNCF est tombé à un plus bas depuis le début de la contestation, à 6,9% selon la direction. Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État aux transports, estime que les discussions qui ont déjà été menées portent leurs fruits. Écoutez-le.
Les discussions, elles ont eu lieu avec les différents syndicats des transports, dans l'aérien, évidemment avec les syndicats du ferroviaire, et des compromis ont déjà été posés. Et d'ailleurs, j'y vois dans la moins forte mobilisation du nombre de grévistes le fruit des avancées concrètes que nous avons posées. Et pour autant, il y a encore des sujets qui nécessitent d'être débattus sur l'équilibre financier, sur la pénibilité, qui effectivement nécessitent de trouver un compromis rapide en vue du dépôt du texte en Conseil des ministres autour du 20 janvier.
On peut s'orienter vers un âge pivot individualisé, c'est-à-dire que tout le monde, selon la pénibilité du travail, ne serait pas obligé d'attendre 64 ans pour avoir une retraite à taux plein.
La pénibilité vise justement à ça, à individualiser en fonction de la spécificité de votre métier, votre âge de départ. Donc la pénibilité, elle est au cœur du projet. En tout cas, l'introduction, la généralisation de la pénibilité, elle est au cœur du projet du gouvernement. Donc nous irons évidemment sur ce champ-là de façon très volontaire.
Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État aux transports, était l'invité d'Aurélie Herbemont ce soir sur Europe 1. Et en plein conflit social sur les retraites, la polémique autour de la décoration du patron du gestionnaire d'actifs BlackRock France. Il a été promu officier de la Légion d'honneur, ce qui a été largement critiqué par l'opposition et les syndicats. Une polémique infondée, regrette Jean-François Cirelli, qui affirme que BlackRock ne distribue aucun produit d'épargne retraite.
Europe 1, le journal de la nuit.
Sophie Tussaud.
Et c'est à présent un reportage exceptionnel que vous propose Europe 1 dans un bloc opératoire de l'hôpital Necker à Paris. Depuis 3 ans, les robots sont partie intégrante des interventions chirurgicales. Ils permettent d'opérer un patient sans l'ouvrir au scalpel. Seuls quelques trous suffisent. Une avancée phénoménale où les chirurgiens réels gardent toutes leurs nécessités. C'est un reportage pour Europe 1 de Yasmina Katou.
Da Vinci est prêt. Poussez tous les bras derrière la ligne du laser vert.
Les 4 bras articulés du robot se positionnent au-dessus de l'abdomen du patient comme une pieuvre blanche. Au bout de ses bras, ciseaux, pinces, caméra pour extraire une tumeur sur un petit garçon de 11 ans. Une intervention délicate. À quelques mètres de la table d'opération, le chirurgien télécommande le robot assis et en chaussettes.
Il faut avoir une bonne sensation de la voûte plantaire.
Les yeux rivés sur un écran, Thomas Blanc a une vision en 3D des organes, comme s'il naviguait à l'intérieur du corps. Au bout de ses doigts, des manettes lui permettent de gérer les instruments à distance, des gestes précis effectués par le chirurgien.
Donc en fait, c'est pas du tout le robot qui opère.
Le jour où vous me trouvez un robot qui opère, je suis très heureux. C'est une interface entre le malade et le chirurgien.
Le chirurgien guide son équipe à distance.
Maria, tu vas venir prendre une pince de géant.
Toute l'organisation du bloc opératoire change en chirurgie robotique. Stéphanie, infirmière, s'est adaptée.
Lorsque le chirurgien nous demande de faire quelque chose, on répète l'ordre avant de le faire pour être sûr de l'exactitude de ce qu'il demande, parce qu'il n'a pas de visuel en fait.
Au bout de 4h30 d'opération, la tumeur de la taille d'une noix est détachée de l'aorte. Soulagement pour Thomas Blanc, son patient pourra reprendre une vie normale 3 jours après l'opération.
Les avantages, c'est de permettre la réalisation de chirurgies complexes par une voie mini-invasive, c'est-à-dire pas de grande incision. On diminue à peu près par 2 la durée d'hospitalisation. Et puis surtout, c'est des enfants qui peuvent reprendre leurs activités sportives également plus rapidement.
Et physiquement, les 4 cicatrices de 8 mm faites sur l'abdomen disparaîtront d'ici un an.
Le reportage exceptionnel de Yasmina Katou à l'hôpital Necker à Paris. On s'intéresse à présent à ce livre qui fait beaucoup parler depuis 2 semaines. Le consentement de Vanessa Springora est sorti aujourd'hui en librairie. Elle y décrit sa relation consentie mais sous emprise avec l'écrivain Gabriel Matzneff, ouvertement amateur de filles très jeunes. Elle avait à l'époque 14 ans, lui 50. Vanessa Springora a mis plusieurs années à écrire cet ouvrage et elle explique pourquoi dans les colonnes du Parisien, Virginie Riva.
Il y a forcément une dimension thérapeutique, dit Vanessa Springora. Un travail d'écriture qui n'a pas été simple pour la jeune femme. Pour parvenir à prendre la plume à la première personne, parvenir à assumer, de livrer ce qu'elle nomme un récit littéraire autobiographique. Un travail entamé il y a plus de 5 ans, en 2014. Le fait d'être mère a pour elle aussi été un déclencheur. Une libération de la parole qui a commencé avant même le mouvement MeToo. Elle ne souhaite pas la chasse à l'homme qui est en train de se mettre en place contre Gabriel Matzneff, dit-elle de manière surprenante. Ce vieux monsieur dans la misère, ce sont ses mots. Mais au contraire, ce qu'elle souhaite aujourd'hui, c'est interroger l'hypocrisie de toute une époque et l'aveuglement qui a conduit à encenser celui qu'elle qualifie de prédateur. Alors qu'elle s'attaque à un écrivain longtemps très reconnu, l'auteur se dit très surprise de l'ampleur que prend son récit. « Je ne savais pas si des événements qui dataient d'il y a plus de 30 ans pouvaient avoir un écho », écrit-elle. Un écho tel qu'elle a également reçu de très nombreux témoignages de victimes dont elle ne peut, dit-elle, être la porte-parole. Elle encourage les plus jeunes à porter plainte, ces faits à elle étant aujourd'hui prescrits.
Virginie Rivaille, alors que le livre de Vanessa Springora est sorti aujourd'hui, la réponse de Gabriel Matzneff dans l'Express, l'écrivain affirme ne pas mériter l'affreux portrait publié de lui selon ses propres mots et il publie des lettres d'amour qu'elle lui avait envoyées à l'époque. Une avalanche en Isère, cet après-midi, 2 militaires ont été emportés, l'un âgé d'une 20aine d'années est décédé, l'autre est gravement blessé. La coulée s'est produite à 2400 mètres d'altitude dans un couloir du massif de Belledonne. Les 2 hommes basés à Vars, au sud de Grenoble, skiaient hors piste. Ils ne se trouvaient pas sur place dans le cadre de leurs fonctions. À l'étranger, Pedro Sanchez devrait retrouver son poste de Premier ministre en Espagne. Le parti indépendantiste catalan ERC décide que ses 13 députés s'abstiendront au cours du vote de confiance au Parlement dans les prochains jours, ce qui ouvrira la voie à la reconduction du socialiste à la tête du gouvernement. L'Algérie, pour sa part, se dote d'un nouveau gouvernement 2 semaines seulement après son élection. Le président Abdelmadjid Tebboune nomme 39 ministres. 3 d'entre eux étaient déjà présents dans le précédent gouvernement nommé en mars par Abdelaziz Bouteflika. Ces nominations interviennent alors que demain sera le 46e vendredi consécutif de colère dans le pays contre le régime. En Australie, les incendies continuent de faire rage. L'équivalent de la surface du Danemark est déjà parti en fumée. Des centaines de milliers de personnes sont évacuées du littoral du sud-est du pays. Pauline Jacquot, une mesure de prévention car la situation risque de s'aggraver.
Oui, et samedi pourrait être la pire journée depuis le début de ces incendies. Des conditions terribles, disent les autorités. Tout est réuni pour que ces flammes continuent de progresser et ravager le sud-est du pays. Pour préserver la population, il n'y a aujourd'hui qu'une solution, prévient le porte-parole des pompiers de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Il faut évacuer la zone.
Il va y avoir des rafales de vent. Les températures vont être à nouveau très élevées, plus de 40 degrés. Le taux d'humidité sera très faible. Ces feux vont encore se propager très vite. Il y a tellement d'incendies dans ce moment qu'honnêtement, on ne sera pas capable de les contenir. Ces feux vont faire ce qu'ils doivent faire, mais on fait en sorte que personne ne reste dans cette zone.
Une région qui s'étire sur 300 km le long de la côte. L'évacuation est donc compliquée. Beaucoup de routes sont fermées à cause des feux et les rares voies ouvertes sont prises d'assaut. Embouteillages, stress. Alors qu'il est, des centaines d'Australiens sont bloqués sur les routes. Certains ont décidé de dormir dans leur voiture. L'évacuation doit se poursuivre demain et ces incendies pourraient encore durer des mois, selon le Premier ministre australien.
Merci Pauline Jacquot. L'actualité sportive à présent avec le coup d'envoi cette nuit de l'ATP World Cup, la Coupe du Monde de tennis. 24 équipes vont s'affronter durant 10 jours. Et ça rappelle bien sûr la Coupe Davis et ça met en lumière les querelles entre le circuit professionnel ATP et la Fédération internationale de tennis. Jean-François Pérez.
Oui, les deux institutions qui dirigent le tennis mondial sont face à face, comme dans un western spaghetti de Sergio Leone. Il y a quelques semaines à peine, la Fédération internationale présentait sa nouvelle Coupe Davis à Madrid. C'était globalement raté. Voici donc la vieille et très anecdotique Hopman Cup transformée en Coupe du Monde par équipe. Rien que ça. 24 équipes réparties en 6 groupes dans 3 villes australiennes, 16 des 20 meilleurs joueurs du monde présents et 15 millions de dollars à se partager. Les chiffres claquent comme un smash. Raphaël Nadal et Novak Djokovic, les deux têtes d'affiche, doivent toucher chacun 250 000 dollars rien que pour leur présence. Gaël Monfils, le numéro 1 français et 10e à l'ATP, devra se contenter de 200 000. Et ce n'est pas tout. Chaque victoire rapportera aux joueurs de l'argent en plus et de précieux points au classement mondial, ce qui n'est pas le cas de la Coupe Davis. Pour le reste, les deux compétitions se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Comme en Coupe Davis, les Français sont dans le groupe de la Serbie, de Djokovic. Au final, une sensation de « on prend les mêmes et on recommence » et le risque d'une confusion dans l'esprit d'un public plus attaché aux traditions qu'aux balles perdues.
Merci Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Et puis en football, 2020 sera l'année de l'Euro. Et cette décision aujourd'hui de l'équipe du Portugal, le Portugal tenant du titre, la sélection délocalise son camp d'entraînement en Hongrie et s'établira à Budapest. Je vous rappelle que l'Euro se jouera du 12 juin au 12 juillet dans 12 pays différents. La météo, Marlène Duret, il va encore pleuvoir demain.
Oui, une bande pluvieuse s'étendra demain matin des Charentes au centre, aux Ardennes et à la Lorraine. Elle sera suivie d'ailleurs d'une seconde bande de faiblement pluvieuse près de la Manche. Avec le retour, on peut l'espérer, de quelques éclaircies l'après-midi dans le Finistère. Ces pluies, sous un ciel bien couvert, glisseront surtout le Grand Est l'après-midi, mais aussi le Lyonnais, une grande partie de l'Auvergne et le sud de la Garonne. Elles seront plutôt faibles et localisées. Et même si ce n'est pas le grand bleu, le ciel s'annonce quand même un peu plus lumineux en direction du piémont pyrénéen, en région toulousaine, dans la moyenne vallée du Rhône, dans les régions alpines et méditerranéennes, avec quand même une petite exception à signaler. Les entrées maritimes le matin attendues en basse vallée du Rhône et quelques plaques de grisaille pourraient se maintenir sur les côtes varoises en journée. Les températures, alors il fera un petit peu moins froid le matin, c'est toujours près des frontières de l'Est que l'on trouvera les valeurs les plus basses, avec 0 degré à Briançon, 1 degré à Dijon, Strasbourg, Chambéry, la maximale 11 demain matin du côté de Nantes. Et cette douceur océanique finira par gagner le nord-est demain après-midi. Prévoyez 7 degrés à Strasbourg, 8 à Nancy et Lyon, 9 à Reims. À Paris, il fera 11 degrés. Ça va monter jusqu'à 12 à 15 degrés près de la Méditerranée, 15 à Perpignan.
Merci Marlène Duret.
Europe 1.
Restez avec nous, il est 22h18 à suivre dans votre journal de la nuit. La Bourse avec Didier Hameau, une page culturelle sur les livres à lire et les musiques à écouter cette année. On se retrouve tout dans un très court instant. Et on fait un point sur la Bourse avec vous Didier Hameau de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Sophie.
Première séance de l'année à Wall Street et la Bourse de New York qui commence l'année sur de nouveaux records historiques.
En forme, très en forme même Wall Street. Effectivement, on est au plus haut absolu, nouveau record pulvérisé hein, même après l'annonce. C'était avant-hier, mais les marchés n'avaient pas réagi. L'annonce par Donald Trump de la date du 15 janvier pour la signature du fameux accord commercial partiel entre Américains et Chinois. Il y a eu des indicateurs aussi en provenance de Chine qui sont meilleurs que prévu, des indicateurs économiques plutôt encourageants. Le Dow Jones grimpe ce soir d'1,16%, 28 869 points, donc nouveau record historique. Le Nasdaq plus 1,33%, là aussi record historique, 9 092 points. C'est un feu d'artifice. Hein. Le Standard & Poor's plus 0,84%, 3 258 points. Ça ne s'arrête pas, les valeurs exportatrices flambent, à commencer évidemment par Apple. le titre le plus cher au monde, en hausse de 2,2%, $300 tout rond. Le groupe vaut 1300 milliards de dollars ce soir. Tesla gagne aussi 2,8%, IBM 1,1%, tout monte. Microsoft plus 1,7%, Intel plus 1,5%, Amazon plus 2,6%. Le pétrole reste ferme au-dessus des 66$. Ça avait un petit peu baissé en fin d'année dernière. 66$ le Brent. Exxon en profite pour gagner 1,6%. 70,90$. Il n'y a que l'euro qui revient un petit peu en arrière. Ça ne bouge pas vraiment. 1,1170 face au dollar.
Bon, alors il n'y a pas qu'à New York. Il y a eu un feu d'artifice. Hein. C'était plutôt pas mal également à Paris aujourd'hui, puisque le CAC 40 est repassé au-dessus des 6000 points.
Tout à fait. Oui, ça commence bien. L'année 2020 commence en hausse d'1,06%, effectivement, au-dessus des 6000 points. 6041 points. Alors, on n'est pas sur les records, hein, contrairement à Wall Street, mais on est quand même au plus haut depuis 12 ans sur le CAC 40, oui. 6041 points sur le CAC ce soir, après une hausse, on le rappelle, de 26% l'année dernière. L'exercice 2020 commence donc sur les chapeaux de roue, aidé par la perspective de cet accord commercial entre Américains et Chinois. Les valeurs industrielles exportatrices grimpent. Soitec, plus 3%. STMicro, plus 3,5%. Là, on est dans les puces informatiques. Et puis Airbus, plus 2,5%, qui est redevenu le premier constructeur aéronautique mondial devant Boeing. Avec les 863 appareils de livrés en 2019, Airbus gagne ce soir 2,5%.
Oui, Boeing qui est aussi un petit peu plombé avec cette histoire de 737 MAX. Il y a une exception du jour sur le CAC 40 et c'est le titre Renault qui a reperdu du terrain.
Moins 0,6% Renault, oui, 41,90€. Pas grand-chose à signaler. Toujours beaucoup d'hésitations sur le secteur automobile alors que les analystes restent prudents sur ce secteur en pleine transition énergétique. Le broker Evercore a dégradé Renault à la vente en se montrant très circonspect sur le dossier pour 2020. Donc Renault, moins 0,6% ce soir à la clôture. Sur les autres places financières, tout monte. Francfort, plus 1%. Bruxelles, plus 1,5%. Madrid, plus 1,4%. Milan, plus 1,4% aussi. On rappelle le CAC 40 en hausse d'1,06%, 6041 points.
Bon, du vert, quoi.
Exactement.
Merci Didier Hamot de Boursier.com. On vous retrouve demain soir pour un nouveau point sur la bourse sur Europe 1. Il est 22h23 sur Europe 1. Pas d'invité éco durant les vacances, mais de la culture. Thierry Dagiral vous propose de découvrir quels seront les livres à lire et les musiques à ne pas rater cette année.
Et hier, on a parlé des films, des spectacles, des expos qu'il ne faudra pas rater en 2020. On poursuit ce soir avec les livres et les concerts. Angèle Châtelier et Nicolas Carreau sont là. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir Thierry.
Nicolas Carreau, il y a deux rentrées littéraires importantes, hein. Celle d'août septembre et celle de janvier-février. Combien de livres attend-on et quels sont ceux que l'on attend le plus en cette rentrée donc ?
Alors, 481 romans seront publiés pour la rentrée 2020. C'est une dizaine de moins que l'année dernière, en fait. Mais c'est pas mal. Hein. Moi, je préfère quand il y a un peu moins de production. Et ce qui est bien avec la rentrée de janvier, c'est qu'il y a beaucoup de poids lourds. Et ils ne sortent plus en septembre parce qu'ils ont peur d'être perdus dans la tempête des prix littéraires. Ouais. Et, et donc, de plus en plus, ils reviennent en janvier. Et par exemple, Daniel Pénac, le grand Daniel Pénac revient avec La loi du rêveur, un roman très très étonnant, plein de surprises. Alors c'est un peu compliqué de parler de ce livre parce que il faudrait pas l'abîmer. C'est Daniel Pénac qui raconte ses rêves et qui délire parfois, comme quand toutes les lumières des maisons et des villes se transforment en liquide luminescent, par exemple. Parfois il rêve, donc, mais parfois il parle de la réalité. Mais en fait, on sait jamais quand commence et quand finit le rêve. C'est pour ça qu'on ne peut pas trop en parler, parce que je ne peux pas vous dire maintenant, ce serait dommage, quand est-ce qu'il rêve et quand est-ce que c'est la réalité, parce qu'à chaque fois, on a des surprises.
Autre livre attendu, celui de Pierre Lemaître.
C'est la suite de la suite d'Au revoir là-haut, et c'est donc la fin de la trilogie. Je rappelle, Au revoir là-haut, donc, suivi de Couleur de l'incendie, et voilà, Miroir de nos peines, en janvier. Il est tiré à 200 000 exemplaires, c'est énorme. Cette fois, nous sommes en 1940, c'est l'Exode. Et dans cette période troublée, Pierre Lemaître, comme toujours, fabrique une sorte de grande fresque historique et super romanesque, un vrai succès annoncé.
Alors, il y a un auteur dont on parle beaucoup aussi, Frédéric Becbédé.
Évidemment. Alors, ne cherchez pas de titre, puisqu'il n'y en a pas vraiment. C'est un emoji souriant, hilar, même un smiley, vous savez, sur la couverture. Le titre est ambigu, mais le héros, en revanche, on le connaît bien, c'est Octave Parangaud, l'alter ego littéraire de Frédéric Becbédé, cynique, dépressif et plus ou moins toxicomane. Les lecteurs l'ont rencontré dans le roman le plus connu de l'écrivain, 99 francs, paru en 2000. 99 francs, qui s'appelle d'ailleurs maintenant 14,90 €. Mmh. Il était alors publicitaire.
En 2000, ça, dites donc.
Ouais, comme Bec Bédé l'a été, ça ne nous rajeunit pas.
Non.
Aucune ressemblance n'est fortuite. On retrouve Octave en 2007 dans Au secours, pardon. Il est devenu dénicheur de mannequins pour une marque de cosmétiques. Mmh. Il part en Russie à la recherche de la beauté parfaite. Et le revoilà dans ce nouveau roman. Cette fois, Frédéric Bec Bédé, pardon, Octave Parango, assure une chronique humoristique à 8h55 dans une matinale radio du service public. Et après la publicité et la mode, donc Bec Bédé explore le monde du divertissement. L'éditeur indique que cette fois, l'écrivain s'attaque à ce qu'il appelle la dictature du rire. Bon. Et puis, il y a le grand Jean Echenoz qui revient aussi, toujours aux éditions de Minuit, avec Vie de Gérard Fulmar.
Nicolas, du côté des étrangers.
Retour aussi de Yann McEwan qui s'intéresse aux nouvelles technologies dans Une machine comme moi. Yann McEwan imagine un monde peuplé d'androïdes qui ont l'air très très humains.
Nicolas Carreau, de la musique maintenant avec vous, Angèle Châtelier. Et avec du lourd, hein, des stars qui vont venir en France cette année, notamment un monstre quasi sacré.
Oui, un certain Paul McCartney.
Rien que ça.
77 ans et rien ne l'arrête. L'ex-Beatles va venir faire 4 dates en France, à Lille, Lyon, Bordeaux et Paris, entre mai et juin. Alors on sait déjà que le show durera 3 heures, avec pas moins d'une quarantaine de chansons. Il reste encore quelques places, hein, mais dépêchez-vous.
Une autre star de la chanson va venir, elle va faire une résidence dans une salle, une des salles les plus prestigieuses de la capitale.
J'ai nommé le Grand Rex et cette star, c'est Madonna. Alors pour l'instant, Madonna n'est pas dans sa meilleure forme. Elle a annulé plusieurs de ses dates américaines à cause d'une douleur accablante. Je cite, espérons qu'elle se sera rétablie pour ses 14 dates prévues au Grand Rex à Paris. C'est entre le 20 février et le 8 mars.
On ne peut pas rater ça. Et puis il y a Céline Dion aussi, bien sûr.
Forcément, bien sûr. 6 dates à la U Arena à partir du 26 juin. Et puis on attend sa prestation au Festival des Vieilles Charrues. Il y aura aussi Laurent Voulzy au Francofolie de La Rochelle, Lana Del Rey au We Love Green Festival. Et puis Thierry, il y aura des retours. Vous vous souvenez peut-être de Superbus.
Allô, Lola.
Ils repartent cette année sur les routes pour célébrer leurs 20 ans déjà. Le groupe de rock Kiss et Green Day viendront aussi faire un tour dans la capitale. Grand retour, un peu moins rock, mais c'est aussi un spectacle. Un Disney qui nous attend en octobre prochain, quelques jours après les shows de Sir Elton John. Elton John.
Nicolas Carreau adore. Hein.
Oui. Ah bah je connais par cœur.
Elton John sera donc avec Nicolas Carreau pour 3 dates exceptionnelles à
Paris.
C'est ça.
Il fait ma première partie.
Voilà, exactement. Ça se passera en octobre prochain et ce sera la dernière tournée de la carrière d'Elton John. C'est donc à ne pas louper.
Voilà pour l'année 2020, Angèle Châtelier pour la musique, Nicolas Carreau pour les livres. Et un point commun, dites donc, la passion. Merci à vous deux.
Merci également Thierry Dagiral et on vous retrouve demain soir.
Europe 1, le journal de la nuit.
Sophie Tussaud. À la une de vos journaux demain, un visage qui sort à moitié de l'ombre. Un visage désormais sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par Interpol. Celui de l'ancien PDG de Renault-Nissan. Mystère et boule de gomme, titre Libération. Alors qu'on ne sait quasiment rien sur les conditions de sa fuite du Japon à l'aide d'un quatrième passeport dans un étui de contrebasse avec la complicité de sa famille ou de professionnels de l'évasion. Les hypothèses
2016 sur la fuite de l'ex-patron, décortiqué de la page 2 à 5 du quotidien. Le conflit libyen en une du Figaro, un conflit qui dégénère aux portes de l'Europe. La Turquie d'Erdogan a entériné ce jeudi l'envoi de troupes à Tripoli face aux forces du général Haftar appuyé par Moscou, au risque d'une dangereuse escalade de la guerre civile. À la une du Figaro, économie, la conjoncture 2020 répit, mais des risques multiples. L'accord annoncé pour le 15 janvier entre la Chine et les États-Unis va désamorcer les tensions commerciales, mais la trêve s'annonce fragile et l'incertitude durable. Dans la presse économique également, 2020, l'année de tous les dangers pour les GAFA, titre Les Échos. En 2019, les enquêtes antitrust sont multipliées contre les GAFA et ces géants tout puissants vont devoir répondre de leur prédominance cette année. L'opinion, pour sa part, revient sur la sortie du livre Le consentement de Vanessa Springora, qui révèle une forme de déni collectif autour de la pédophilie. Le scandale invite le milieu littéraire et culturel à une remise en question. Et La Croix choisit, pour sa part, de parler de la contestation à Hong Kong. L'impossible réconciliation, l'imposante mobilisation des Hongkongais le 1er janvier témoigne de la profonde colère provoquée au fil des mois par les exactions de la police. C'est un reportage à lire, pages 2 et 3 du quotidien. Il est 22h31 sur Europe 1, c'est l'heure de la libre antenne à présent avec Olivier de Delacroix. Bonsoir Olivier.
Il n'y en a qu'un. Bonsoir
oui,
Sophie.
Il y en a qu'un, c'est vrai. C'est pas Delacroix, c'est Delacroix en un seul mot.
Exactement.
Bon, pour les auditeurs, on peut leur rappeler le numéro pour vous joindre, le 3921.
Exactement.
Et nous, on se retrouve dans une petite demi-heure.
Et on se retrouve dans une demi-heure. À tout à l'heure,
à
Sophie.
À tout à l'heure, Olivier.